fil des siècles, la communion en Orient s'est polarisée, si vous voulez, autour de quatre grandes églises appelées patriarcats, à savoir les sièges de Constantinople, qui se trouve aujourd'hui à Istanbul, Alexandrie, Antioche et enfin Jérusalem. Donc nous avions ce qu'on appelait au VIe siècle la pentarchie, c'est-à-dire les cinq grandes églises qui étaient les quatre d'Orient puis celle de Rome. Et ensuite, au fil de l'histoire, lorsque Constantinople, qui était la capitale de l'Empire byzantin, est tombée aux mains des Turcs en 1453, pendant quatre siècles, le patriarcat de Constantinople était aux mains de l'Empire ottoman, et il y a eu, au fil des temps, une progressive indépendance des territoires de Constantinople par rapport au patriarcat. Le patriarcat de Moscou, qui était en fait l'église de la Moscovie, ne pouvait pas continuer à être régi par l'église de Constantinople. D'un point de vue pratique, c'était extrêmement difficile. Et donc, le patriarche de Constantinople, de l'époque du XVIe siècle, le patriarche Jérémie, s'est rendu sur place à Moscou. Il y a eu une réunion du synode de l'église de Russie à l'époque, et il a donné sa bénédiction pour que l'église de Moscou, donc le patriarcat de Moscou, prenne naissance en s'affranchissant de l'ensemble du territoire canonique du patriarcat de Constantinople. C'est ce qui a été le cas donc de l'église de Serbie, de Roumanie, de Grèce, de Bulgarie. Donc tous ces territoires qui autrefois étaient à l'intérieur du patriarcat de Constantinople sont devenus autocéphales, c'est-à-dire qu'ils mènent leur vie organisée de manière indépendante des autres patriarcats, tout en étant en communion.
À l'heure actuelle, comment est constituée l'Église orthodoxe ?
L'Église orthodoxe se présente comme la communion entre 14 églises territoriales autocéphales. D'une part, les quatre patriarcats anciens et puis toutes les églises plus récentes, la plus ancienne étant celle de Russie, mais également donc les églises des Balkans, de Serbie, Roumanie, Bulgarie, également l'église de Géorgie, l'église de Grèce, l'église de Chypre qui, elle, a son autocéphalie depuis très longtemps, depuis le 5e siècle, l'église de Pologne, et puis l'église d'Albanie, et enfin celle de Tchéquie et Slovaquie. Cette diversité, si vous voulez, de ces églises au pluriel n'affecte finalement que l'incarnation dans des cultures locales d'une tradition ecclésiale unique, qui est la tradition byzantine. Et elle concerne simplement l'administration particulière de chacune des églises, mais ça n'empêche pas ces églises d'être en communion dans la foi et dans la doctrine, dans la tradition.
Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a conduit à l'opposition actuelle entre orthodoxes et catholiques ?
D'abord, dans un premier temps, par le fait des invasions qui ont coupé, à partir du 5e siècle, l'Europe en deux, l'Empire romain en deux. Donc finalement, l'Église d'Occident s'est développée de manière unilatérale et l'Église d'Orient de l'autre, l'Église d'Orient qui était soumise à l'Empire byzantin. Donc nous avons eu des frictions à travers les siècles entre les deux églises, qui n'en étaient qu'une au départ, notamment au 9e siècle, ce qu'on appelle le schisme de Photius et du pape Nicolas, qui était dû à un problème sur la manière de considérer l'autorité de l'évêque de Rome dans la communion des églises, hein, déjà, vous voyez, au 9e siècle. Et puis, plus gravement, en 1054, c'est un échange d'anathèmes entre l'envoyé du pape et le patriarche de Constantinople de l'époque sur une crise, si vous voulez, qui concernait l'organisation des églises, et puis qui faisait apparaître aussi de nombreuses divergences, alors divergences dogmatiques sur la question de la procession du Saint-Esprit, le fameux filioque, le fait que les latins confessent que l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils, et non pas simplement du Père, mais également des divergences liturgiques, l'emploi ou non du pain azyme pour l'Eucharistie, des divergences disciplinaires, le fait que le clergé était marié en Orient alors qu'il ne l'était plus en Occident au début du 11e siècle, mais le véritable schisme a été causé par la quatrième croisade, lorsque cette croisade détournée par les Vénitiens a en quelque sorte atterri à Constantinople et le saccage de la ville par les croisés donc en 1204. Alors là, on peut dire que ça a été le point d'orgue et les antagonismes sont devenus irréductibles.
Alors aujourd'hui, le patriarcat de Moscou conteste la primauté romaine et la primauté d'honneur de Constantinople. Est-ce que si par exemple Constantinople acceptait de renoncer à sa primauté d'honneur, le patriarcat de Moscou accepterait la primauté romaine ?
Elle conteste une certaine interprétation. Elle conteste, si vous voulez, que cette primauté d'honneur s'accompagne d'une autorité concrète. Elle considère que c'est simplement une une primauté honorifique. Il est clair que pour qu'avance le dossier de résolution du schisme entre l'orthodoxie et Rome, l'Église orthodoxe se présente toujours de manière groupée.
Du coup, quels sont les efforts que chacun peut faire pour arriver à cette pleine communion désirée, aussi bien des efforts de la part de l'Église romaine que des différents patriarcats de Moscou et de Constantinople ?
Du côté de Constantinople et de Moscou, il y a des efforts à faire pour mieux comprendre la logique interne de la tradition de l'Église romaine, c'est-à-dire le développement de cette centralisation, elle correspond à un certain cadre historique. Donc l'Église orthodoxe doit faire un effort en ce sens que tout ce qui est étranger à l'Orient n'est pas forcément mauvais. Du côté occidental, je pense qu'il faudrait faire un effort pour mieux répondre aux exigences de l'Église ancienne, qui est justement ce bel équilibre qui existait entre la primauté et la synodalité. Et cela à différents niveaux, pas simplement au niveau de l'Église universelle où on se pose toujours la question de la primauté au singulier, autrement dit primauté du pape ou pas, mais aussi au niveau intermédiaire, c'est-à-dire la primauté des régions ecclésiastiques. Benoît XVI en avait parlé à plusieurs reprises à l'époque où il était professeur, l'idée de pouvoir décentraliser l'organisation de l'Église d'Occident en grandes régions ecclésiastiques à la tête desquelles on aurait des primats, et on retrouverait ainsi cet équilibre entre primauté et synodalité.
Et l'expérience commune du premier millénaire, est-ce qu'elle pourrait être un modèle pour renouer la communion entre catholiques et orthodoxes ?
Nous devons retisser la communion en approfondissant l'ecclésiologie, c'est-à-dire finalement en retrouvant le sens même de l'Église, le sens même de la théologie de l'Église. C'est en approfondissant ensemble la théologie de l'Église, la vision de l'Église, à l'image de la Sainte Trinité, que, encore une fois, nous allons pouvoir retrouver le sens du juste équilibre entre primauté et conciliarité. Donc la Trinité, c'est le modèle parfait, je dirais, pour la vie de nos églises.